souhaiterais que je vous donne quelques informations sur le voyage que j'ai fait en Amérique du Sud. Alors, je profite de cette conférence pour vous donner quelques aperçus, parce que la presse en général, en Europe et ailleurs, présentait ce voyage comme un échec complet. Or, comme je vous le disais, l'échec n'est pas complet, puisque nous avons non seulement deux Argentins, mais trois maintenant. Alors, vous voyez, l'échec n'est pas... Il n'y aurait que ce résultat, que ce serait déjà un beau résultat. Bien, le voyage a commencé d'abord par l'Amérique, puisque nous sommes partis avec M. et Mme Pedroni et l'abbé Jean-Michel Faure, qui, je crois, est, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais enfin, il était... Je crois qu'il doit être arrivé ce soir. Nous sommes partis sur Houston, où nous avons rencontré nos confrères américains, prêtres et séminaristes. Et là devait avoir lieu la cérémonie de la bénédiction de la nouvelle paroisse que l'abbé Bolduc avait acquise là-bas. Il a vraiment eu là une inspiration particulière et vraiment une bénédiction du bon Dieu, parce qu'il a réussi à acquérir, à acheter un complexe total d'une paroisse, d'une véritable église, un presbytère, un grand presbytère, une maison des sœurs, une école... Et un hall, comme on en a habituellement dans les paroisses américaines, avec cafétéria et tout. Un magnifique ensemble de ils ont mis alors pendant les semaines qui ont suivi l'acquisition, tout le monde s'est mis au travail, on refait une église vraiment magnifique, avec, il a trouvé un hôtel, il a trouvé des statues, il a trouvé tout ce qu'il fallait, enfin ça a été, en un rien de temps, cette église est devenue comme une église neuve absolument, une église traditionnelle évidemment. Ouais, donc avec joie, béni cette église, et beaucoup de monde, enfin c'était très... très sympathique, dans une chaleur presque tropicale, mais enfin, c'était quand même, c'est très bien. Alors donc, passé là, à Houston, deux ou trois jours, et quand nous avons voulu prendre le billet pour aller à Mexico, toutes les compagnies ont dit, pas possible, vous ne pouvez pas prendre de billet pour Mexico, nous avons reçu des ordres, de ne pas vous embarquer, ni moi-même, ni monsieur Mme Pedroni, ni l'abbé Jean-Michel Faure. Tout était bien annoncé sur les défenses. Et si une compagnie d'aviation s'avisait de nous faire passer à Mexico, même en transit, ils avaient $1,000 d'amende. Vraiment, nous sommes vraiment des gens dangereux et tout à fait indésirables au Mexique. Ce n'est pas surprenant de la part du gouvernement du Mexique, car il faut bien se dire que toute l'énonciature avait reçu des ordres de la secrétaire d'État pour tout faire pour empêcher ma visite en Amérique du Sud, interdire ma visite, que l'énonce avait fait pression sur les gouvernements pour demander qu'on interdise ma visite. Alors, le gouvernement de Mexique, qui est tout à fait maçonnique, évidemment, a accepté immédiatement les avis de l'annonciature. Et donc, nous ne pouvions même pas passer par Mexico, même en transit. Il fallait donc trouver un autre moyen. Alors, je suis donc décidé de passer par Miami, Caracas et Bogota. Pour retrouver Bogota, puisque nous avions trois jours de bon, puisque le Mexique nous fermait ses portes, on avait donc trois jours employés, comme j'ai une de mes sœurs qui est mariée en Colombie, Je lui ai téléphoné et lui ai demandé si elle pouvait nous recevoir, bien sûr, bien contente de la visite. Et car nous n'avions pas l'intention de nous arrêter en Colombie, on pensait passer directement de Mexico au Chili, sans donc passer par Caracas. À Miami, personne ne s'est beaucoup occupé de nous, il n'y avait pas de journalistes, pas de... personne, c'était tranquille. Mais cependant, celui qui nous a donné le billet m'a reconnu. Et puis, elle était très, très aimable, c'était un bon voyage, enfin, elle s'est occupée de nous d'une manière particulière. Mais il n'a pas prévenu Caracas et nous n'avions ni photographe ni journaliste à la descente à Caracas. Chose absolument extraordinaire parce que partout c'était vraiment une cohue invraisemblable. Donc à Caracas, j'ai là aussi un de mes neveux qui habite là à Caracas aussi, donc il nous a reçus et... nous avons logé chez lui, monsieur et madame Pedroni et moi, parce que l'abbé Jean-Michel Faure était parti, lui, directement sur Santiago du Chili pour préparer l'avenue, pour voir si tout était dans l'ordre. Il a bien fait, parce que, il n'y avait pas grand-chose d'organisé. Il a donc mis sur pied l'organisation l'espace de 2-3 jours. Pendant ce temps-là, nous passions donc à Caracas. Or, le matin à Caracas, pour dire ma messe, j'avais emporté tout ce qu'il fallait dans ma valise. Pas d'aube. J'avais oublié mon aube à Houston. Alors, obligé de chercher une aube, car je ne pouvais tout de même pas dire une messe sans aube. Je n'en suis pas encore là. Et je demande à ma nièce s'il y a un magasin d'objets religieux ici à Caracas, si on peut trouver quelque chose, trouver une aube. On pourrait toujours acheter, ça servira toujours. En effet, connaissez un magasin, nous partons en voiture, monsieur, madame Pedroni, ma nièce, mon petit-neveu, et nous partons au centre de la ville. Arrivé tout près du centre de la ville, on arrête la voiture parce que c'est comme dans toutes ces immenses villes de l'Amérique du Sud qui se chiffrent par le bas des millions, des millions, des millions d'habitants. Énorme, des villes énormes. Alors, un trafic impossible tout près de la place où se trouvait ce magasin. Alors on s'arrête dans une petite rue où il y avait place pour trois voitures de front. C'était à sens unique. Alors je reste dans la voiture avec madame Pedroni pendant que monsieur Pedroni, ma nièce et le petit neveu s'en vont chercher l'aube. Pendant ce temps-là, se vient se placer juste en face de nous une autre voiture de laquelle descend un magnifique ecclésiastique. Le chauffeur se précipite pour ouvrir la porte arrière, descend un bel ecclésiastique, douillette, lunettes dorées, un beau chapeau à poils romain, là aussi. Magnifique, enfin tout à fait élégant, et qui se dirige vers Libreria Sao Paulo, devant laquelle nous étions arrêtés sans le savoir. Alors, il se dirige. Là. Dans le trafic, passe une camionnette qui est arrêtée par le trafic, qui s'arrête, et qui se passe entre nous deux, entre les deux voitures. Et le chauffeur, intrigué par ce bel ecclésiastique, qui voit descendre de la voiture, cherche à communiquer ses impressions à ses voisins. Et il me voit dans la voiture, il voit un ecclésiastique, le col romain, et il me fait signe, des grands gestes. Le Fèvre qui dit. Voilà l'idée qu'on se fait de Lefèvre à Caracas. C'est magnifique, ça c'était vraiment... C'était d'autant plus innocent de sa part que les journaux ne parlaient de moi, mais j'étais à Houston et on ne savait pas où j'étais passé, on ne savait pas si j'étais parti sur New York ou je ne sais pas quoi, pour chercher l'avion qui devait me conduire à Santiago. Alors les gens ne pensaient pas du tout que j'étais là, c'est pour ça qu'il n'y a aucun journaliste ni aucun photographe à l'aéroport. Mais j'ai donc pu lire ma messe tranquillement, puis on est parti sur Bogota. Bogota, alors là, commençait la corrida. les photographes, les gens de la presse, épouvantables. Avec la troupe qui était là, bien sûr, on avait envoyé la troupe pour me garder, parce qu'on craignait des attentats, ou je ne sais pas quoi, mais... Alors partout, j'ai eu droit à, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de militaires, autant de gendarmes, autant de polices secrètes, etc. Et alors qui écartaient les photographes, qui écartaient les gens de la presse. Puis on arrivait à l'aéroport, là, dont j'ai fait une petite interview aux gens de la presse, pour moi, pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils me laissent la paix. Et puis pendant les trois heures que j'étais à Bogota, je suis parti chez les parents de ma nièce, justement, qui était à Caracas, qui habite Bogota. Et je suis parti là, pour passer les trois heures qu'il y avait passé en attendant que je prenne l'avion pour aller chez ma sœur qui se trouve à Pereira, une demi-heure d'avion de Bogota. Et c'était encore une corrida. Parce que la radio, les photographes, tout ça poursuivait la voiture, n'est-ce pas, poursuivait ma voiture. Et ça, il y avait de la police devant, police derrière, tout ça part sur les rues. Et puis, la radio annonçait, Monseigneur Lefebvre, maintenant, dans telle rue, il va croiser. Il va passer maintenant à tel carrefour, et il se dirige dans telle rue. Alors, les gens se précipitaient partout. Au feu rouge, il y avait des foules et qui disaient Viva Monseigneur! Viva Monseigneur! Viva Monseigneur! Et puis les signes que je donne la bénédiction, les gens s'agenouillaient pour recevoir la bénédiction et Viva Monseigneur! Invraisemblable. Et je ne pouvais presque pas rentrer chez la mère de ma nièce, c'était très difficile pour moi, tellement il y avait du monde qui était là, qui voulait me voir, qui voulait demander des explications, des informations, que sais-je. Enfin, on est rentré quand même, on a pu repartir sur Bogota, sur l'aéroport, quelques temps après. Mais c'était encore toute une histoire, et heureusement qu'il y avait de la troupe qui était là pour canaliser, empêcher les gens de la presse et de la radio qui étaient là. Mais là, il y a eu un petit incident encore, oui, il me faudra une heure pour vous raconter ça. Un petit incident encore amusant, c'est qu'il y avait une de ces personnes qui est reporter, n'est-ce pas, pour prendre des interviews, une journaliste, qui, voyant que le chauffeur n'était pas là tout de suite, avait ouvert la porte et puis met les coudes sur le fauteuil du chauffeur, n'est-ce pas, il était là avec son micro pour me demander, je vais avoir quelque chose, n'est-ce pas, moi j'aurai quelque chose. Puis là, c'était là, alors on causait un peu, mais elle ne bougeait plus. Alors le chauffeur qui me conduisait attendait un peu à la porte. Monsieur Pedroni commençait à s'énerver, il dit celle-là, elle ne restera pas longtemps là. Alors, il l'a prise par la taille, il l'a sortie de la voiture, puis il l'a mise sur le trottoir, comme ça. Elle était furieuse. Le lendemain, il y avait dans le journal, évidemment, C'est ce mal élevé de Français qui était là et qui était avec Monseigneur. Alors c'était encore les Français qui en avaient, c'était un Suisse. Si au moins ils avaient mis un Suisse, mais non, c'était pas le Suisse. Ce mal élevé de Français, c'était pas chez eux. Et puis nous sommes partis à l'aéroport, partis à Pereira, la même chose, dans l'avion. Le pilote insiste pour que je vienne dans la cabine de pilotage. Il voulait me voir, il voulait me causer avec moi. Et puis on a fait l'atterrissage dans la cabine de pilotage. On est arrivé sur Pereira. Et là, encore des journalistes, des photographes, de la foule. Partout, comment cette foule était là, je n'en sais rien. En tout cas, il y avait de la foule tout le long du parcours, et c'était toujours du « à Monseigneur ». Arrivé près de chez ma sœur, heureusement que la troupe était là aussi pour empêcher les gens de fermer la route, littéralement. En fait, tout ce monde-là, pourquoi était-il là? Pourquoi vivre à Monseigneur? Pourquoi? Allez-vous expliquer ça vous-même? Moi, j'en sais rien. Mais enfin, je pense que ces gens-là, vous voyez, sont vraiment excédés par tout ce qu'ils voient. Et ils ont appris, il y a un évêque qui résiste un peu, qui n'est pas dans ce sens-là, qui veut rétablir un peu la tradition, et ils sont contents. Moi, j'explique ça comme ça. Je vois pas comment expliquer autrement, parce que je les connais pas. Je connais pas ces gens-là, moi. Ben, c'est invraisemblable. Alors, c'est passé quelques jours là, et puis je suis parti ensuite sur Santiago du Chili, où l'abbé et la mission Yusufor m'attendaient là. Arrivé à l'aéroport de Santiago, j'étais encore dans l'avion quand j'entendais la foule qui était sur les terrasses partout, qui les terrasses étaient pleines de monde, n'est-ce pas, qui criait Lefebvre, si, communiste, non. Lefebvre, si, communiste, non. Et ça criait comme ça, et ça criait pendant tout le temps que je descendais de la coupette, que de descendre, parce que l'avion était resté un peu loin. Je descendais, alors là aussi, entouré par la troupe, arrivé dans l'aéroport, aussi interview, alors là, voiture de police devant, voiture de police derrière, comme d'habitude, et puis on essaye de passer à travers la foule est descendue, voyons que c'est descendu pour essayer de me voir, pour essayer de voir quoi. Impossible de passer, la police avait beau faire ses sirènes et puis faire travail, impossible de passer, les gens étaient devant, ils ne voulaient pas laisser passer les voitures parce qu'ils voulaient absolument me voir et puis... Alors on a dû faire demi-tour et passer à travers les pistes, longer toutes les pistes de l'aéroport et sortir une autre sortie de la... C'est vous dire combien... Alors vous voyez, quand ils disent les gens m'ont mal reçu ou j'étais mal reçu, au contraire. Et si on avait fait tant, soit peu de publicité, je pensais que c'est pas de publicité. C'est un fait, les journaux ont parlé, la radio, puis deux jours avant, 48 heures avant. Alors imaginez si ça avait été fait pendant 15 jours avant, et on aurait eu des foules invraisemblables. Je suis allé à l'hôtel, là, où on avait retenu les places, et enfin, là, j'ai pu dire la messe, il y avait 350 personnes, et puis le lendemain, conférence, il y avait 800 personnes à la conférence, et très très sympathique, enfin des gens très enthousiastes. Et j'ai vu 6 prêtres, là, dans une maison privée, qui se cachaient pour me voir, évidemment, en danger, puisque le cardinal avait mis dans les journaux, Monseigneur de Lefebvre est un traître et un Judas. Alors, évidemment, les prêtres avaient un peu peur de me rencontrer. Mais j'ai pu les voir et ils m'ont certifié, ils m'ont dit, mais Monseigneur, il y a plus de la moitié des prêtres qui sont avec vous et beaucoup d'évêques même qui sont dans leur cœur qui sont avec vous aussi. Mais évidemment, personne n'ose le dire et ici on est persécuté, on est tout de suite, dès qu'on est traditionnaliste, tout de suite c'est la persécution. Alors là... on a pu quand même prendre quelques contacts et je suis persuadé qu'il serait tout à fait disposé à envoyer les jeunes gens. Là, si on ouvrait un séminaire en Argentine, le Chili, volontiers enverrait ces jeunes en Argentine. Puis on a donc continué ensuite sur Buenos Aires. C'est là qu'il y a eu un incident à l'arrivée. On a eu donc aussi, bien sûr, toujours foule de photographes et de journalistes. Mais on s'est dirigé alors vers une chapelle qui avait été préparée provisoirement dans un garage. Enfin, ils avaient aménagé une chapelle pour qu'on puisse dire la messe le soir en arrivant. Mais là, il y avait la troupe qui interdisait l'accès à la chapelle. Et donc on n'a pas pu dire la messe, on a chanté un Salve Regina sur place, on a récité un chapelet, puis on est parti parce que c'était inutile d'insister. Enfin, c'est vous dire que, vous voyez, dans l'ensemble, on a vraiment été très très bien reçus, et en Argentine, ensuite à Buenos Aires, on a eu une grande messe alors en dehors, dans une propriété privée, où il y avait 1500 personnes. Et on a reçu aussi un bon nombre de prêtres, et actuellement, je sais, enfin, l'abbé Jean-Michel Faure pourra le dire, je pense, que nous avons maintenant déjà 3 prêtres qui sont installés à Buenos Aires, dans le petit groupe qui va être avec nous, avec la fraternité, et qui vont maintenant dire la messe de Saint-Pie-V et s'organiser là. Enfin, on aurait dit que le terrain était tout préparé, vraiment, pour nous attendre. On sent qu'il y a un appel partout, les gens demandent en grâce d'avoir des prêtres, d'avoir des cérémonies comme autrefois, parce qu'ils sont absolument excédés de la manière dont les choses se passent actuellement. Et malheureusement, il faut dire que les chefs de ces épiscopats sont les pires. Chef de l'épiscopat de Monseigneur Sylvain Riquez de Santiago, Monseigneur Aramburu de Buenos Aires, mais On peut presque dire que ce sont des communistes. Qu'est-ce que vous voulez? On croirait qu'ils ont été placés là pour faire passer le communisme.
Alors comment faire pour entrer au Mexique? Alors, 8 jours avant de partir, j'ai dit non, mais tant pis, j'essaie de demander une autorisation, le visa. Si je l'ai, ce sera le signe que la Providence permet que j'aille au Mexique. Si je ne l'ai pas, je ne vais pas au Mexique. Bon, moi, je ne peux pas me faire reconduire à la frontière. Parce que tous les jours, l'eau titrait, Monseigneur le fait chasser du Mexique, emmené de force à la frontière. Emporté. Et alors j'ai demandé tout simplement à l'agence qu'il veuille bien demander pour moi un stage touristique. L'employé de l'agence, alors on dit, mais c'est très bien, oui, c'est très bien. On va téléphoner à l'ambassade du Mexique à Berne pour demander ce qu'il faut faire et s'ils peuvent vous accorder ça immédiatement. Alors je ne pensais pas qu'il allait dire au téléphone devant moi, bon, ici agent Tintel, la Sucère, à Holten, vous demande s'il est possible d'accorder à l'archevêque Lefebvre. C'est terminé. Oui, il faut votre passeport, j'ai besoin de votre passeport, on va envoyer votre passeport là. Il faut qu'ils ne me tiennent pas mon passeport, je dis, qu'ils ne me gardent pas. Il a pris la grande main le passeport, il m'a dit non, voilà, non, ça n'est pas la moitié. Et en effet, 3 jours après, déposer le passeport et à l'intérieur, le visa touristique et la carte touristique sont pour passer. Bon. Pas de problème, jusque-là. Et alors, donc, pas d'hésitation. On est parti jusqu'à New York, où nous avons rencontré là nos confrères qui sont venus nous chercher, puis on passait la soirée ensemble. Le lendemain, on partait sur, donc le dimanche, on partait sur El Paso. On a passé là 2 jours à El Paso, dans cette nouvelle maison, qui est une grande maison, loin d'être aussi grande que celle de Sainte-Marie, du Kansas, mais enfin à la centrale des Jésuites. Mais qui est devenue notre centrale. Maison de religieuses, des sœurs de Jésus et Marie, qui avaient là un pensionnat, bien sûr avec chapelle, salle de classe, dortoir, maison des sœurs, noviciat des sœurs, encore. Donc, un grand hall de gymnastique, parce qu'en Amérique, donc une maison assez grande, on peut dire un certain nombre de petites réparations à faire, mais enfin la maison est en bon état. Donc logé là, j'ai dit la messe là, les gens sont venus nombreux, aussi bien de la ville d'El Paso qui compte je crois 300 000 à 400 000 habitants, et la ville de Ciudad de Juarez qui se trouve en face, qui elle a 1 million d'habitants. Alors ça fait une agglomération importante, et beaucoup sont venus à la messe, il y avait beaucoup de monde, donner des confirmations aussi. Et c'était par hasard, ce jour-là, le 5 janvier, pendant que nous étions à El Paso, que se rencontrait le président des États-Unis, nouveau président des États-Unis et le président du Mexique. C'est tout juste si on n'a pas dit dans les journaux que c'était à l'occasion de mon passage qui serait venu. Mais enfin, nous sommes passés de l'autre côté, tout était propre, les avenues nettoyées, les bâtiments repeints, enfin, pour recevoir le président des États-Unis, Ronald Reagan. Et puis, la rencontre a eu lieu le lundi 5 pendant que nous étions là-bas. Alors le 6, nous sommes partis, c'est le jour de l'épiphanie, ça tombait bien. Nous partions à la conquête du Mexique. Nous sommes donc passés sans difficulté, et non pas en civil, mais en clergyman, puisque les lois du Mexique veulent que les prêtres soient habillés en clergyman. des nouvelles lois, lois persécutrices qui datent d'une cinquantaine d'années. Enfin, et nous sommes donc partis traverser la ville de Juarez, arriver à l'aéroport, et là présenter nos passeports et nos cartes touristiques. Et loin d'étonner les policiers qui étaient là, au contraire, ils ont demandé si c'était vraiment Monseigneur de faire. Il a fallu que je signe des images. Tellement heureux de me recevoir. Et puis après, quelques jours après, nous avons vu dans le journal, mais je pense que c'était une invention d'un journaliste, que les employés qui m'avaient reçu et qui m'avaient introduit comme ça, sans avertir le gouvernement, etc., avaient été déplacés, destitués, etc., envoyés ailleurs. Bon, c'est pas vrai, mais enfin, c'est pour montrer un peu l'agacement du gouvernement qui s'était trouvé devant ma présence sans être averti à l'avance. Alors, nous sommes partis, nous avons pris l'avion, je suis depuis Ciudad de Juarez jusqu'à Mexico, de Mexico où personne ne s'attendait à nous voir, bien sûr, n'était pas, personne n'était averti, même pas les fidèles, personne n'avait averti personne, sauf les seuls qui le savaient, c'était les deux gros villages où nous sommes allés après pour donner les confirmations, la suite. Mais sinon, et avec le père Manuel Esteban, le Mexicain qui avait organisé le voyage, d'ailleurs, et qui nous attendait à Veracruz. Alors, à Mexico, nous avons rencontré l'abbé Faure, qui lui nous attendait, et avec lui, nous sommes partis à Veracruz. Nous étions donc l'abbé Bolduc, l'abbé Babinet, l'abbé Faure, moi-même, Monsieur Rosis et l'abbé Bolduc, des idées un peu originales. Il avait cru bon de s'adjoindre à un capitaine de la sécurité américaine. Alors, nous étions accompagnés par un capitaine de la sécurité américaine. Et nous sommes partis à 6 sur Veracruz, et là nous devions rencontrer l'abbé Emmanuel Esteban, qui était vraiment l'organisateur de notre voyage missionnaire. À partir de ce moment-là commençait vraiment notre voyage missionnaire. Le soir même, il est venu nous rencontrer. Il avait emprunté à son frère une grande voiture américaine, et puis il avait loué un pick-up aussi pour pouvoir mettre les bagages, pour mettre en contact, car nous étions nombreux. Avec lui, l'avait Esteban, sept personnes. Donc. Et c'est à ce moment-là aussi que nous avons commencé à être accompagnés par la police, parce que l'abbé Esteban a cru bon quand même d'avertir donc le gouvernement que nous étions là et demander la protection de la police. Alors évidemment, immédiatement, nous avons eu droit à une voiture de police qui nous a suivis depuis là jusqu'au départ. On a eu droit à avoir au moins 3 policiers, quand c'était pas 6, quand c'était pas 10, qui nous accompagnaient partout. Donc nous sommes arrivés, nous sommes allés le soir même à une petite ville, Tuxtepec, qui est le siège d'un diocèse, dont dépend le village d'Otilan, où nous avons fait notre première étape missionnaire. Mais nous sommes restés à Tuxtepec le soir, là, pour pouvoir arriver le lendemain et être accueillis par le village comme il convenait. Alors le lendemain, nous sommes partis vers ce village qui est à 3 heures environ de ce centre, à l'intérieur des terres, mais qui n'est pas très encore, c'est pas dans la montagne, c'est pas très élevé, de 500-600 mètres. Et nous sommes. Alors là, nous avons été bien sûr accueillis par toute la population, qui fait 18 000 habitants. Et c'est dans ce premier village où se trouve un catéchiste qui a su réunir autour de lui toute la population catholique du village, des villages environ. Ça forme un ensemble de villages. Très joli d'ailleurs, végétation tropicale, de l'église, là où l'église domine le village, comme sur un petit piton, et puis de là on domine vraiment une vue magnifique sur tout le pays. Alors tous ces gens sont venus à notre rencontre, évidemment on avait le droit à des coups de fusil, à des pétards, des banderoles, etc. Et des cantiques, pas seulement. Alors ça, nous sommes dirigés vers l'église, et là on a fait une petite cérémonie religieuse, puis ensuite les gens nous ont fait le catéchisme, qui nous a fait un discours de bienvenue. Elle était très, très sympathique. L'histoire de ce village est assez curieuse, à la fois triste et singulière, parce que ces gens se sont rebellés contre leur prêtre, contre le curé, et l'ont chassé tout simplement parce que ils démolissaient l'autel, ils démolissaient les statues, ils nous ont montré des photographies, des statues déjà, certaines statues qu'ils avaient commencé à démolir. Alors pour toucher à l'autel et toucher aux statues, alors ça, c'est inadmissible, et ils ont mis le prêtre dehors. Alors ce catéchiste qui est environ Pedro, là, qui est environ 35 ans, bien bâti, solidement, bien costaud, tremblé, il a été mis en prison par l'évêque. L'évêque a demandé au gouvernement de le mettre en prison, puisqu'il avait comme ça chassé le prêtre et occupé l'église. Il a été en effet mis en prison. Mais les gens du village sont partis et se sont installés à la prison et ont entouré la prison et ont attendu qu'on leur sorte leur Pedro. Ce qui était fait d'ailleurs, on a sorti Pedro de la prison et ils sont partis avec Pedro. L'évêque, une seconde fois, a fait une instance auprès du gouvernement, une deuxième fois, Pedro est mis en prison. Deuxième fois, les gens sont partis et ils sont installés là, tout autour de la prison et ils ont attendu qu'on leur rende leur Pedro. Et le gouvernement, non seulement leur a rendu leur Pedro, mais après que l'évêque a essayé de remettre une équipe d'Italiens, là, trois prêtres italiens, disons qu'il a voulu mettre dans la paroisse, bien, ce fameux Pedro est allé à Mexico, il a dit « Nous ne voulons pas d'étrangers. » Ils ne vont pas prêter étrangers ici. D'ailleurs, ils sont aussi désagréables que les autres. Nous n'en voulons pas, il faut qu'ils partent. Le gouvernement a cédé. Le gouvernement a fait revenir les Italiens à Mexico. Et il a confié l'église à Pedro. Il avait souffert, mais... Il a gagné. Alors, si bien que maintenant, il dispose de l'église et des locaux qui sont tout autour de l'église. C'est une très jolie église avec des locaux bien installés. Nous avons tous logé dans ces locaux autour de l'église, la sacristie, évidemment d'une manière assez sommaire. Mais enfin, c'était missionnaire. Et c'était très, très, très sympathique. Si bien que maintenant, lui, il n'a plus qu'un désir, c'est de voir venir un de nos prêtres, là, bien sûr, chez lui. Il reçoit déjà le babinet quand il y passe, et puis la Besteban, enfin, ils sont déjà allés plusieurs fois. Et maintenant, il a supplié, avec d'ailleurs quelques notables du village, qui sont venus nous voir, supplier qu'on leur laisse un prêtre. Et en particulier, il aurait beaucoup voulu qu'on leur laisse d'une manière définitive l'abbé Babinet. Il ne l'appelle pas l'abbé Babinet, évidemment, c'est pas facile à prononcer, l'abbé Babinet. Alors, comme ils ont demandé son nom, là-bas, on parle en, en, on appelle le prêtre par le don Manuel, ou don ceci, ou don cela, mais c'est pas, on dit pas, un peu comme les Italiens, n'est-ce pas? Mais, don Giulio. Alors, comme il a dit, je m'appelle Régis. Alors, ils ont dit, ah, Padre Régis, alors c'est Padre Rey. Ah, c'est le roi. Ah, Régis, c'est le roi. Alors maintenant, ils ne connaissent plus Père Régis, ils ne connaissent pas le Père Rabinet, ils connaissent Padre Rey. Alors, ils voulaient Padre Rey, on veut Padre Rey. Padre Rey, bon, non, ça va. Le Padre Rey, il est demandé partout là-bas, alors ils sont restés partout. Et on a passé là-bas 3 jours. On passait le 7, le 8 et le 9. On passait, nous sommes partis le 10. Non, on passait, alors là, je passais mon temps à donner des confirmations, 1250 confirmations. Alors des confirmations qui étaient peu ordinaires parce que 1250 confirmations, ça représente environ au moins pas loin de 10 000 personnes qui sont passées dans l'église, dans cette église. Et comme on donne les confirmations à la manière coutumière de l'Espagne, c'est-à-dire à partir de 1 an jusqu'à 6 ans, alors je vous assure que il était inutile de chanter, les enfants sont chargés. Et des hurlements. Quand le parrain enlevait l'enfant de sa mère pour tenir l'enfant pour la confirmation, alors c'était des cris, on croyait qu'on allait les égorger. Confirmé comme ça, 1250, il y a eu, je sais plus, 70 baptêmes, une quinzaine de mariages, enfin. Là, c'est vraiment exactement en masse. Malheureusement, ces pauvres gens qui ont été abandonnés depuis 4-5 ans maintenant, qui sont sans prêtre, eh bien, ils ont perdu l'habitude de se confesser, puisque les prêtres ne viennent pas souvent. Il faudrait vraiment pouvoir les reprendre en main et rester là vraiment, comme ils le demandent, pendant un certain temps, pour leur réapprendre à leur donner l'habitude de se confesser. Ça va se faire malheureux de voir ces braves gens qui étaient là, venant nombreux nous voir, mais pratiquement très peu de communion, vraiment très peu de communion. Et les prêtres pourtant étaient disposés à les entendre en confession, mais peut se présenter aussi au ministère de la confession. On peut vraiment leur rendre l'habitude de la pratique, des sacrements. Alors ça, le baptême, confirmation, mariage, ça c'est bien, mais la pratique quotidienne, enfin, habituelle des sacrements de pénitence et de l'Eucharistie, ils l'ont pratiquement perdu depuis qu'ils sont abandonnés. Alors nous avons quitté ce village, nous avons vraiment eu un contact là avec ces gens qui sont surtout, tout ce village était plutôt de race indienne, plus que de race espagnole, c'était moins mélangé. Alors nous terminons ce voyage nous quittions donc le 22 de Guadalajara pour nous rendre à Mexico. C'est une affaire d'une quarantaine de minutes en avion, et le lendemain, le 23, nous avions 2 réunions. Une réunion le matin avec des représentants de cette université libre de Guadalajara qui avaient beaucoup tenu à me rencontrer pour évidemment exposer leurs problèmes. Problèmes que maintenant nous connaissons également en Europe, évidemment. Toujours cette question du pape, la question de la validité des messes, etc. Alors il tenait beaucoup à m'entendre. J'ai exposé ce qu'était la pensée, ma pensée et celle que nous avions toujours suivie à l'école. Il n'a jamais changé, ils peuvent se référer à toutes les conférences que j'ai faites et qui sont publiées dans un évêque parle. Ils ont été convaincus, mais je pense quand même que des discussions comme celle-là étaient très utiles, parce que ils sont tentés par des solutions absolues, radicales, évidemment, c'est plus facile, intellectuellement, ça paraît plus logique, ça paraît plus facile, mais entre cette position purement spéculative, purement intellectuelle, et puis la réalité, il y a quand même une distance pour savoir approcher d'aussi près possible la réalité pour être objectif, pour ne pas faire une construction purement intellectuelle et personnelle. Enfin, les abbés de Galaretta, puis l'abbé Faure, qui après ont pris contact avec eux, semblait dire qu'ils avaient quand même été un petit peu ébranlés, mais enfin, de là à dire qu'ils étaient convertis, c'est autre chose. Parce que c'est pas en deux heures qu'on peut renverser des convictions qu'ils ont depuis maintenant bientôt 15 ans, parce que eux ont été, encore je dirais, dans ces idées-là bien avant ceux que nous connaissons ici en Europe. Parce que le père saint Ariaga avait déjà cette pensée-là au début de la fondation de l'Université libre. Il avait déjà écrit le pape et l'antéchrist, enfin le pape et l'antéchrist, qui avait fait un peu de sensation, un peu de bruit là-bas, à Mexico et même en Europe. Et puis l'après-midi, il y a eu une réunion avec la presse. Et cette réunion avec la presse a eu lieu dans un hôtel, on ne voulait pas qu'elle ait lieu dans une maison particulière pour que il ne désigne pas les personnes qui nous recevaient, ainsi de suite, enfin que dans la presse. Alors ça a eu lieu dans un hôtel. Et parmi ceux qui nous interrogeaient, il y avait précisément un de ces messieurs, mais qui n'était pas là le matin, de ceux qui sont favorables à ces idées excessives, qui évidemment attaqué assez vigoureusement et qui avait pendant la semaine parlé pendant une demi-heure à la télévision contre moi, contre la fraternité. Alors eux, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, peuvent se permettre des choses comme ça. Ils avaient dans certains journaux deux pages du journal pour développer leurs idées. Ça représente des sommes considérables. Alors, évidemment, il se trouve que ces gens-là, ayant l'université libre, ayant de l'argent, autant qu'ils en désirent, ils ont une force que n'ont pas ceux qui nous suivent, ceux qui pensent comme nous, qui se trouvent dans une espèce d'état d'infériorité devant les autres. Pourquoi il serait bien utile que des prêtres soient là, présents, qui redressent un peu ces pensées, qui évitent que tous les traditionnalismes basculent dans cette tendance radicale. Et surtout à l'université, si on pouvait faire un travail à l'université même, auprès des étudiants, ce qui pourrait se faire assez facilement. Mais voilà, il faut du monde. Il faut des prieurés, il faut des maisons de retraite. Alors, il faut patienter encore. Cette université compte 30 000 étudiants, dont 10 000 Mexicains et 20 000 non-Mexicains, qui viennent par conséquent du monde entier. C'est donc une énorme université, vous voyez. Et je leur demandais, précisément,
si dans cette université il y avait une faculté de philosophie et une faculté de théologie, ils m'ont dit ah non, pas de faculté de philosophie, pas de faculté de théologie. Vraisemblable. Dans une université catholique, pas de faculté de philosophie. Non, c'est incroyable. Et c'est ce qui fait, précisément, je pense, qu'il est plus facile que les erreurs pénètrent et qu'ils aient une attitude anticommuniste, disons, primaire. Ils n'ont pas d'idée nette et claire sur une société chrétienne, sur une société, sur un plan, ou des projets à donner, des choses concrètes, et particulièrement sur le règne social de notre Seigneur. Et ils ne peuvent l'apprendre que par les facultés de théologie ou par l'éthique sociale de la philosophie, qui leur donnerait des principes. Le principe d'une société normale, une société selon la loi de Dieu. Alors, c'est assez curieux. Penser qu'une grande université comme ça n'a pas ses facultés fondamentales. Et la presse a été plus favorable à la fin. Et dans l'ensemble, enfin, on a senti un changement, un grand changement avec le début. Au début, nous étions tout à fait pris en grippe, en suspicion, vraiment d'une manière tout à fait déplaisante, même quelquefois. Mais petit à petit, on sentait qu'ils étaient quand même sensibles à nos arguments et en même temps à notre attitude. Vous voyez bien que nous n'étions pas des écervelés ou des farfelus. Alors ça les touchait quand même de voir ces sept soutanes qui étaient là, qui les entouraient. Donc ils pouvaient s'entretenir après avec les presses, tous ceux qui parlaient espagnol, par conséquent, ils avaient de la facilité de s'entretenir avec eux, alors tout ça leur a fait du bien. Alors ils en ont profité, évidemment, pendant que nous étions là, dans la presse, pour mettre des caricatures. Je pense que M. Rosis vous donnera ça, vous aurez la joie de mettre une caricature. Une d'entre elles me représente comme ça, comme une bombe atomique. Puis les évêques sont... Une autre me représente le marchand Mitre Cross. Et alors une personne me suit, n'est-ce pas? Alors elle est prise par le cou, par un foulard, et puis il y a un évêque qui lui tire je la tire en arrière. Ils ont inventé tout ça. Ils ont de l'humour, au moins. Voilà, puis c'est terminé notre voyage par un pèlerinage à Notre-Dame de Guadeloupe. C'était vraiment pour un peu pas mieux faire que de couronner notre voyage par ce pèlerinage. Le matin même de notre départ, le 24, nous sommes allés rendre visite à Notre-Dame de Guadeloupe, qui est située comme au pied d'une colline. Et il y a la vieille basilique Notre-Dame de Guadeloupe qui a été évidemment très abîmée parce que Mexico est construit sur des marais, paraît-il, que c'est très marécageux, alors la terre est assez mouvante, et avec le temps et les siècles, les murs se sont fendus, certains sont très penchés, ils ont dû, paraît-il, remonter un des pans de la basilique, de la vieille basilique, un des murs de la vieille basilique de 1,50 m. C'est-à-dire remonter, mettre des vérins sous les murs et tout ça, faire des travaux énormes pour essayer de redresser l'ancienne basilique qui était en train de s'ouvrir et de tomber. Alors évidemment, ils font ça très lentement parce que sans doute ça coûte très cher. Alors ils ont construit à côté, tout à côté, malheureusement, beaucoup trop près, une basilique moderne affreuse, affreuse, affreuse. C'est un cirque, absolument un cirque. C'est ronde, ronde, et vous imaginez une espèce de grand fer qui dépasse de ce rond immense avec des câbles qui retiennent la toiture, enfin, parce que pour qu'il n'y ait pas de colonne à l'intérieur, c'est un cirque, un véritable cirque. C'était affreux, abominable comme construction. Alors à l'intérieur, c'est tout à fait moderne, bien sûr, on voit un podium immense, très élevé, une table, maintenant dans cette église, pas de crucifix sur la table, rien, un mur, et tout autour, alors en demi-cercle, des trois rangées de, ce sont même pas des fauteuils, ce sont comme des chaises longues, vous savez, de rouge vif, c'est un rouge sang, c'est une main. Alors les prêtres sont dans ces fauteuils, mais quoi, dans les fauteuils et qu'on célèbre. Affreux, vraiment abominable. Je ne comprends pas comment on peut faire des choses pareilles. Alors la belle image de la Vierge, l'image miraculeuse de la Vierge, a été mise sur le côté de ce demi-cercle là qui entoure l'autel, très haut, très 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 haut. Alors quand on est devant ce podium, on ne peut pas bien voir l'image miraculeuse, c'est beaucoup, beaucoup trop loin, beaucoup trop haut. Alors on peut s'approcher, passer derrière, mais là ça forme comme un couloir entre l'arrière du podium qui est très haut, qui fait bien 7-8 mètres de haut. Et puis alors le mur sur lequel se trouve la Vierge. Alors la Vierge est très très haute. Et en plus ça, ils ont mis alors des bancs de, comme dans les, vous savez, comme dans les aéroports, là, où vous avez des bancs mouvantes. C'est caoutchouc où vous ne pouvez pas rester devant la... On est obligé de se mettre sur ces bancs qui vous emmènent. Et puis qui vous emmène. Et on va regarder en l'air. Inimaginable. Ils ont fait ça soi-disant parce qu'il y avait tellement de monde que. On ne pouvait pas, il fallait que les gens circulent. Alors au lieu de faire circuler les gens, quelqu'un se dit, alors ils ont inventé de mettre ces tapis roulants. Alors tout le monde est emporté. Nous, quand nous y étions, il n'y avait personne. On aurait très bien pu, ils auraient bien pu arrêter ces... C'est bien qu'on voit difficilement l'image. On peut l'avoir en définitive que dans les reproductions qui se trouvent alors le côté derrière, dans le côté de sacristie, il y a évidemment une salle de vente d'objets religieux dans laquelle se trouvent des reproductions qui sont d'ailleurs très belles. Et c'est vraiment une histoire très émouvante. Cet Indien qui avait eu la vision de la Vierge était allé voir l'évêque du diocèse pour lui raconter ce qu'il avait vu. Et l'évêque lui a dit, bien, demandez à la Très Sainte Vierge un signe. Moi, je ne peux pas croire comme ça s'il n'y a pas un signe. Alors il est allé de nouveau au lieu de l'apparition. Et la Très Sainte Vierge lui a remis dans son pancho, là où c'est. Vous savez, cette espèce de couverture juste avec un trou au milieu pour passer la tête. Alors ce pancho, il a tendu son pancho et la Vierge lui a remis un bouquet de roses. un moment où il n'y a pas le moment de la floraison des roses à Mexico. Alors, il est allé se présenter comme ça devant l'évêque et lui a remis voilà ce que la Vierge m'a remis. Et pendant qu'il présentait ces roses, l'image de la Vierge a apparu sur son poncho, qui était en fibre, vous voyez, en fibre, ce n'était pas en tissu, c'était de la fibre, comme des fibres qui est faite avec des herbes, quoi. Donc c'était très grossier comme poncho. Et là, lui, il ne s'en rendait pas compte. Il présentait ses roses sans se rendre compte que sur son poncho, c'était de se trouver l'image de la Vierge. Alors on voit dans la peinture que l'étonnement de l'évêque et des gens qui entourent l'évêque devant l'image de la Vierge. Et quand on lui a enlevé alors le poncho, on lui a montré l'image de la Vierge, il dit, mais oui, c'est bien cette image-là que j'ai vue, c'est bien la Vierge que j'ai vue. Et c'est resté, cette image est restée, donc image miraculeuse en définitive. Et alors que cette matière aurait dû se corrompre au bout de 20-25 ans, une matière des fibres végétales n'aurait pas dû rester, et elle est toujours là. Même ça, c'est encore un miracle, n'est-ce pas? Depuis des siècles, cette image est là, et l'image est toujours très active, très nette, très belle. Alors on a pris des photos, et dans l'œil droit de la Vierge, on a augmenté, on a agrandi, ils ont fait des agrandissements de la tête de la Vierge. Et ils ont remarqué que dans l'œil droit de la Vierge, on voit l'image dans l'œil reflète l'image de l'Indien. On trouve dans la pupille la tête de l'Indien dans l'œil droit de la Vierge qui a été agrandie. C'est très net, très net. C'est tant de choses qui montrent que cette image est tout à fait naturelle, enfin, mais en même temps, bien sûr, miraculeuse. Et à partir de ce moment-là, en quelques années, il y a eu 7 millions d'Indiens qui se sont convertis. Alors, c'est vraiment, le Mexique doit à Notre-Dame de Guadeloupe vraiment sa conversion. C'est vraiment très émouvant. Alors, bien sûr, vous comprenez bien qu'il y a pour cette image de la Vierge une dévotion extraordinaire dans le pays. C'est bien normal. On peut dire que cette image a été faite, si on peut dire, par la Vierge elle-même. Ce n'est pas une image qui a été faite de main d'homme. C'est une nuit. Alors, et de fait, cette représentation est admirable. Le caractère du visage de la Vierge est vraiment extraordinaire. Alors les gens viennent dans ce sanctuaire, même à genoux, j'en ai vu, qui venaient sur les genoux, n'est-ce pas? Ils viennent, ils se mettent à genoux à 50 ou 100 mètres de la basilique, et ils viennent sur les genoux, par esprit de pénitence, par esprit de dévotion, dans cette basilique. Or, dans cette basilique, maintenant, il n'y a plus un agenouilleur. Ils ont enlevé les agenouilleurs, on ne peut pas s'agenouiller. Alors vous voyez, ces braves gens qui viennent là, plein de piété, de dévotion pour la Vierge, peuvent même pas trouver un agenouilleur. Ils viennent sur les genoux, ils ne trouvent rien pour s'agenouiller dans la chapelle. C'est vraiment désastreux. La situation actuelle est désastreuse au point de vue spirituel. Et c'est l'année dernière, il n'y a eu que deux ordinations pour 77 millions d'habitants catholiques. Deux ordinations, deux prêtres, deux nouveaux prêtres. Pour tout le Mexique. C'est incroyable. Alors, en concluant, je dirais que c'est les paroles que m'a dites ce vicaire à Cordoba. Je ne sais plus si je voulais raconter, je ne sais pas, ce vicaire que j'ai vu à Cordoba, qui a voulu absolument me voir, qui était habillé en civil, on aurait plutôt dit un gros commerçant du coin, qu'un prêtre. On m'a dit, il y a un prêtre qui veut vous voir. Là, j'ai vu ce monsieur s'approcher de moi. Là. Qu'est-ce que c'est ce prêtre? Alors, il m'a dit, il avait combien, 35-40 ans. Il m'a dit, je suis vicaire ici dans une paroisse de Cordoba et je voulais beaucoup vous voir. Je tenais absolument à vous voir, Monseigneur. Parce que pour vous dire que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez le Saint-Esprit. C'est vous qui avez la grâce. C'est vous qui êtes l'Église. Il dit, maintenant, dans notre église, eh bien, il n'y a plus rien, rien, rien. C'est fini, fini. Et il a employé le terme, il a dit, c'est un masque derrière lequel il n'y a plus rien, rien. Il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a plus la grâce, il n'y a plus rien, c'est un masque. Moi, je ne lui demandais pas. Il m'a dit ça, ça m'a quand même touché, parce que je me disais, il est dans le milieu, il vit dans ce milieu-là, il voit ce qui se passe, et il éprouve le besoin de venir me dire ça, alors qu'il ne me connaît pas, que je ne l'ai jamais vu. Alors c'est tout de même, je disais, ça représente un peu, donc même l'esprit, vous voyez, de ce berger, vraiment, quelqu'un qui constate à l'intérieur même de cette église dans laquelle il se trouve, que ce n'est plus vraiment, il n'y a plus cet esprit surnaturel, il n'y a plus l'esprit de la grâce, il n'y a plus le Saint-Esprit, c'est effrayant. Alors ces pauvres gens sont abandonnés et sont vraiment en risque de perdre la foi, beaucoup de la foi. Nous devons espérer que nous puissions faire quelque chose en attendant, évidemment, ce que nous allons faire, c'est que l'abbé Babinet va continuer ses tournées là régulièrement, peut-être encore plus régulièrement. Il va s'entendre avec l'abbé Emmanuel, le Mexicain qui était avec nous, le père, pour faire des tournées régulières, en attendant qu'il puisse avoir un adjoint là-bas à El Paso. Il viendra d'El Paso, et puis qu'après on puisse faire envoyer au moins deux prêtres pour commencer un prieuré là-bas, probablement à Guadalajara, où on nous a donné ce terrain. Évidemment, ça n'est pas encore pour tout de suite, mais il y a là vraiment une très grande urgence d'apostolat pour garder la foi, être les témoins de la tradition pour ces gens qui en ont tellement besoin. Alors, on recommande ces braves gens à vos prières, en attendant que vous puissiez, que quelques-uns d'entre vous puissent aller évangéliser le Mexique.
Pour cet instant où vous êtes appelé, tout à l'heure, on vous appellera. C'est à ce moment-là que l'Église, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous appelle à participer à son sacerdoce. En ces jours où l'on a tendance à diminuer, je dirais même à mépriser, la valeur du prêtre, ce qu'il a de particulièrement merveilleux, divin, au moment où le prêtre voudrait être un homme comme les autres, il me semble bien utile de rappeler la grandeur du prêtre. Celle que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu lui donner, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église, ce ne sont pas les évêques qui ont donné une particulière dignité au prêtre, c'est notre Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même. Le prêtre a quelque chose de divin, d'intemporel, d'éternel, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur était à la fois dans l'éternité et dans le temps. Il est difficile de s'imaginer les grandeurs, les splendeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, même lorsqu'il était en Palestine, même lorsqu'il vivait à Nazareth avec Jésus, avec Marie et Joseph, même lorsqu'il était au milieu des apôtres, au milieu de la foule. Jésus était à la fois éternel et temporel. Il était l'éternel. Il a divinisé son humanité par cette grâce d'union, cette grâce qui a fait d'une certaine manière couler l'huile de l'onction divine sur son humanité. Son humanité a été complètement divinisée. son âme est devenue divine, ses facultés d'intelligence, de volonté, toute son humanité est devenue divine, assumée par la divinité. Et alors, prêtre, vous participez à cette grâce d'union, car c'est par cette grâce de l'union hypostatique, par l'union de la divinité à l'humanité de notre Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ a été fait le grand prêtre, sacerdoce in aeternum. Au moment même où, dans le sein de la Vierge Marie, la divinité s'unissait à l'humanité, Jésus devenait le prêtre par excellence, le seul prêtre, le vrai prêtre. Et nous, prêtres, par la volonté de Dieu, par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous participons à cette grâce. Cette grâce qui a fait de l'humanité de notre Seigneur le prêtre éternel. Vous êtes comme une humanité de surcroît pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'incarne à nouveau dans ses prêtres. Et c'est si vrai que lorsque vous montez à l'autel et que vous prononcez les paroles de la consécration qui continue la grâce de la rédemption et qui provoque la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos autels, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus un tel ou un tel. Vous êtes le prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'autre Christ. Vous prononcez ces paroles sous l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se sert de vos intelligences pour que vous ayez l'intention de faire ce qu'il a fait. Il assume d'une certaine manière vos intelligences pour infuser dans elle cette pensée de refaire et de faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu. Il se sert de vos lèvres, il se sert de vos paroles. C'est in persona Christi que vous prononcez ces paroles. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes vraiment des membres privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la dignité du prêtre. Et c'est ce qui fait toute sa dignité. C'est qu'il est utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ pour accomplir des actes que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut faire. Car seul il peut réaliser ce miracle admirable de la transsubstantiation, ce miracle admirable de sa présence dans l'hostie, dans l'Eucharistie. Et il le fait en se servant de nous. Il aurait pu le faire sans intermédiaire, sans instrument. Il a voulu se servir d'instruments intelligents pour réaliser ce miracle, continuer sa rédemption. Ainsi, le prêtre entre, dans quelque sorte, dans l'éternité lui-même. Il devient tellement uni à notre Seigneur, tellement assumé par notre Seigneur, qu'il lui aussi il devient d'une certaine manière éternel. L'acte qu'il fait est un acte d'éternité. Alors, mes chers amis, lorsque vous montrez à l'autel, vous montrez comme au Tabor, et vous êtes là sur la montagne, avec notre Seigneur Jésus-Christ, et il se servira de vous pour descendre à nouveau au milieu de nous, et pour que vous le donniez aux âmes, afin qu'elles participent elles aussi à la rédemption de notre Seigneur et à sa vie divine, préparant ainsi leur vie de gloire dans le ciel. Comme tout cela est grand, comme tout cela est beau, comme tout cela nous dépasse, tellement nous avons peu idée de ce qu'est Dieu, de ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'est l'éternité par rapport au temps. Et cependant, vous êtes aussi des prêtres de ce temps. Vous ne serez pas toujours sur la montagne avec notre Seigneur, vous ne serez pas toujours à l'autel, vous serez dans le temps, au milieu de ce monde d'aujourd'hui. Alors, ce monde d'aujourd'hui, mes bien chers amis, Que réclame-t-il de vous ? Vous n'êtes pas au XIIe siècle ou au XIIIe siècle, vous êtes des prêtres du XXe siècle. Et qu'est-ce que ce XXe siècle ? Qu'est-ce que cette époque que nous vivons ? Doit-elle changer le prêtre ? Le prêtre dans cette époque ne sera plus un homme d'éternité. Ne sera-t-il plus un homme uni à notre Seigneur Jésus-Christ pour prononcer les paroles de la consécration et faire descendre à nouveau Jésus parmi nous ? Sera-t-il un homme différent de celui du XIIe, du XIIIe, du XVe siècle ? Sera-t-il un homme différent du prêtre qu'étaient les apôtres ? Non, il y a dans le prêtre un homme éternel, un apôtre éternel qui fait des actes d'éternité et qu'il ne peut pas changer. S'il transforme ses actes d'éternité, il risque de ne plus donner l'éternité aux âmes, de ne plus donner notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Mais cependant, vous êtes dans ce monde. Et qu'est devenu cet homme qu'on appelle l'homme moderne ? Qu'est-il cet homme moderne ? Et si l'on fouille dans l'histoire moderne ce que disent les historiens de la transformation de ce monde, ils trouvent que ce qui caractérise notre époque, c'est la sécularisation. Qu'est-ce que veut dire sécularisation ? Rendons-nous compte de ce que signifie ce mot. Disons tout simplement que notre époque moderne est une époque qui veut se débarrasser de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre époque moderne est une époque qui veut se débarrasser de Dieu. C'est cela la sécularisation. C'est se mettre au niveau de ce siècle, sans Dieu, sans notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, ce travail s'accomplit lentement, sûrement, avec une conscience diabolique. Lentement, mais sûrement, notre monde devient un monde sans Dieu et sans notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'est l'homme moderne. Il se forme lentement, sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il méprise les lois de notre Seigneur Jésus-Christ, les lois de Dieu, les lois naturelles, les lois divines, les lois ecclésiastiques. Il n'y a plus rien pour lui qui compte, sinon lui-même. Il ne fait plus que ce qu'il veut, ce qu'il entend faire, ce qu'il entend décider de lui-même et de tout ce que le bon Dieu lui a donné. C'est lui qui décidera désormais. Il est adulte. Désormais, l'homme est adulte. Il a conquis à travers les siècles sa dignité humaine. Il n'a plus besoin de Dieu, de notre Seigneur, de loi. Il est le maître du monde. Voilà, l'homme moderne. L'homme moderne. C'est-à-dire qu'il est sous l'influence du démon. Du démon de l'orgueil qui a dit « Non serviam, je ne servirai pas. Je ne veux pas servir. Je veux être mon maître. » Il est devenu comme le démon. Et alors, c'est avec cet homme-là que nous voudrions faire un pacte. Et oui, ça circule dans l'Église elle-même. Il faut faire un pont avec ce monde, avec le monde de l'homme moderne. Il faut faire un pacte avec l'homme moderne. Parce que ce n'est qu'en s'abaissant à son niveau, en se mettant à son niveau, que nous l'amènerons à Dieu. Erreur totale. Il veut être sans Dieu. Voulons-nous nous aussi être sans Dieu pour le ramener à Dieu ? Quelle folie ! C'est insensé. Si nous voulons lui donner Dieu, mais il faut l'amener à Dieu. Il faut lui rendre Dieu. Il faut lui faire reprendre conscience de sa pauvreté, de sa misère, de son péché. Et le ramener à notre Seigneur Jésus-Christ, seul Dieu, seul Très-Haut. Voilà ce que nous devons faire, et voilà, mes chers amis, le monde dans lequel le bon Dieu vous envoie, ou théatis, et fructum afferatis, pour que vous alliez dans ce monde. Alors, ce monde incroyant, ce monde qui va vous rejeter, vous représentez notre Seigneur, nous n'avons pas besoin de notre Seigneur. Vous représentez Dieu, nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous ne savons pas ce que c'est que Dieu. Vous voulez nous imposer des lois, nous ne voulons plus de lois. Nous voulons la liberté. Nous voulons vivre maintenant en homme, adulte, avec toute notre dignité. Alors vous serez forcément rejeté du monde. Et plus le monde vous rejettera, plus vous devez rester prêtre, plus vous devez rester ce que notre Seigneur Jésus-Christ vous a fait, plus vous devez montrer en vous notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde a besoin de cela, et que tout de même les âmes de bonne volonté viendront vers vous. Que les âmes de bonne volonté trouveront en vous la lumière, parce que vous représenterez notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous mettez au niveau du monde, comme ces pauvres prêtres qui disent « Nous voulons être comme tout le monde, le prêtre est un homme comme les autres. » Alors où est la lumière du prêtre? Que représente le prêtre pour le monde? Plus rien. C'est fini, il a disparu. Et c'est vrai, il n'y a plus de prêtre dans le monde, puisqu'il n'y a, il n'y a plus de soutane. Il n'y a plus de prêtre qui se présente comme prêtre. Le travail qu'il fait n'est plus le travail du prêtre. Il n'y a plus de prêtre. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ disparaît du monde. C'est ce que recherche l'homme moderne. Il ne veut plus notre Seigneur Jésus-Christ. Il est heureux de voir disparaître notre Seigneur Jésus-Christ dans ses prêtres. Alors, vous devez, vous, au contraire, affirmer votre sacerdoce. Affirmer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, en toute humilité, nous ne sommes rien. Nous sommes de pauvres prêtres, de pauvres pécheurs comme les autres. Et par conséquent, en évitant surtout de devenir comme les pharisiens en disant « Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis pur. Moi, je suis vrai. Moi, je suis juste. Moi, j'ai la vérité. Les autres sont des misérables. » Non, pas d'esprit de pharisaïsme. Mais maintenir la vérité, certes. Mais en même temps que nous portons la lumière au monde, nous devons savoir que, nous, que cette lumière ne nous appartient pas, qu'elle appartient à Dieu, qu'elle appartient à notre Seigneur, que lui seul convertit les âmes. Alors soyez fiers et soyez heureux même de vivre à cette époque. Parce que, précisément, s'il fut un temps ou peut-être le monde, d'une certaine manière, était chrétien. Alors les prêtres, peut-être, ne se sentaient plus le besoin, ne sentaient plus le besoin de manifester leur sacerdoce, de manifester la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, de manifester qu'ils étaient le sel de la terre. Parce que la vie chrétienne existait partout. Les églises étaient remplies de monde. On montrait du doigt ceux qui n'allaient pas à la Sainte Messe. Alors que maintenant, c'est le contraire. On montre du doigt ceux qui sont obéissants à la loi de Dieu. Le monde a complètement changé. Par conséquent, votre présence comme prêtre dans la société d'aujourd'hui est plus nécessaire que jamais. Que le bon Dieu vous donne cette grâce. Soyez heureux d'affirmer ainsi votre sacerdoce et de comprendre l'utilité peut-être plus grande que jamais de ce sacerdoce. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous garde dans ses pensées, dans cette force, dans ce combat contre le démon et contre tous ceux qui voudraient faire disparaître notre Seigneur de ce monde. Soyez les serviteurs de cette croisade en face de ce monde athée, de la croisade du règne de notre Seigneur Jésus-Christ et du règne de la très sainte Vierge Marie. Et c'est par la Vierge Marie, par son soutien, que vous maintiendrez votre sacerdoce. Elle qui était la mère du prêtre éternel, elle sera votre mère aussi, qu'elle vous garde dans ce combat. Voilà, mes chers amis, ce que nous demanderons au cours de cette cérémonie pour vous, et ce que je souhaite que vous puissiez réaliser dans votre vie pour avoir la joie de votre sacerdoce.